là, on a quitté le Paris aujourd'hui central et bourgeois, et on commence à se diriger vers les confins de Paris.
Vers le nord et l'est, oui. Vers les arrondissements 18, 19, 20, les derniers arrondissements qui ont encore un côté populaire. La place de la République qui est une implantation très brutale, une implantation haussmannienne très brutale au cœur d'un quartier populaire, avec une caserne de la garde républicaine. Et de là partait le boulevard Magenta vers Montmartre, la rue Turbigo vers le centre, le canal vers la Bastille. C'était un endroit où pouvaient partir des charges de cavalerie ou des canons dans toutes les directions. Donc c'était vraiment un quadrillage militaire de la ville, la place de la République.
L'idée d'Haussmann, c'était justement de raser ces petites rues.
Oui. Mais enfin, en dehors de l'île de la Cité, où il a vraiment tout démoli, et de cette implantation-là, les grandes percées haussmanniennes, au fond, elles n'ont pas complètement bouleversé les quartiers qu'elles traversaient. Si tu regardes, je sais pas, le boulevard de Sébastopol, disons que c'est la percée haussmannienne type, la grande percée nord-sud. Eh bien, ça a laissé subsister de part et d'autre la rue Saint-Denis, la rue Saint-Martin, la rue des Faubourgs, Saint-Martin, sans y toucher. Au fond, pour ce qui est des grands bouleversements de Paris, je pense que la période des années 60, De Gaulle, Malraux, Pompidou, ça a été un bouleversement plus profond qu'Haussmann. C'est là vraiment que les pauvres ont été chassés du centre. Ce qu'au fond, Haussmann n'avait pas réussi. C'est pas qu'il voulait pas, mais c'était trop compliqué. Alors que là, par le jeu, non plus de la police, pas uniquement de la police, mais par le jeu de la spéculation immobilière, les promoteurs immobiliers, l'augmentation des loyers, les pauvres n'ont plus eu accès au centre de Paris. Donc, ils ont été éjectés vers la périphérie d'une façon beaucoup plus sûre, beaucoup plus silencieuse et beaucoup plus, au fond, irrésistible que tous les efforts qui avaient été faits auparavant depuis le grand enfermement de 1657. Hein.
Qu'est-ce que c'était, ça, le grand enfermement?
Sous Louis XIV, la décision a été prise. C'est l'époque où il y a eu un lieutenant de police à Paris, c'est-à-dire un préfet de police. Quoi. Il n'y en avait pas jusque-là. De débarrasser les rues de tous les clochards, les prostituées, les fous, le cours des miracles, tout ça. Et on a construit pour ça ce qui s'appelait l'hôpital général, c'est-à-dire on a construit pour ça la Salpêtrière essentiellement, mais aussi Bicêtre. Et on a enfermé tout le monde là-dedans. Un jour. Du mois de mai 1657, je me rappelle plus le jour. Enfin, c'est très bien décrit par Michel Foucault dans Histoire de la folie, à l'âge classique. Je crois que c'est Louis XIV et le lieutenant, enfin l'Araignée, qui a une rue à Paris d'ailleurs, au Hall, le premier lieutenant de police. Je crois que c'est vraiment de ce moment-là que date la systématisation. Parce qu'avant, les cours des miracles, ils dépouvaient rien. Hein. Ils arrivaient sur les cours des miracles, on leur envoyait des pierres. Il n'y avait pas de force publique à cette époque. Paris était dans le noir la nuit. Il y avait trois points éclairés dans Paris la nuit dans ces années-là, disons au début, avant le XVIIe siècle. Trois points, la lanterne des morts au cimetière des Innocents, une grande lanterne qui était devant le Grand Châtelet, qui était le tribunal, pour pas que les malandrins quand même se assassinent des gens devant la porte du tribunal. Et puis une lanterne qui était sur la Seine à hauteur de la Tour de Nesle pour signaler aux mariniers qu'ils entraient dans Paris. Donc il y avait trois points qui étaient éclairés toute la nuit. Mais le reste du temps, Paris était dans le noir. Alors comment voulez-vous faire du contrôle de population dans le noir? Donc l'éclairage public a commencé.